Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Lors de sa première élection, Emmanuel Macron avait beaucoup d'ambition pour l'Union européenne. On rappellera ce qu'il a dit lors de son discours de la Sorbonne en septembre 2017. La seule voie qui assure notre avenir, c'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Et les défis sont nombreux pour l'Union européenne, les menaces de la Russie, la pression migratoire, la montée des populismes. L'idée d'une défense européenne a-t-elle progressé? Pourquoi l'Union européenne a-t-elle l'ambition de relancer son partenariat avec les pays de la Méditerranée? Et pourquoi Giorgia Meloni, venue de l'extrême droite, s'est-elle imposée comme l'un des leaders européens? Enfin, quel est le poids d'Emmanuel Macron en Europe alors qu'il est affaibli dans l'Hexagone? Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Henri.
Bonjour Loïc.
Alors vous êtes en ligne de Bruxelles, vous avez couvert le dernier sommet européen. Est-ce qu'on s'approche de l'idéal espéré par Emmanuel Macron, une Europe souveraine, unie et démocratique?
Pour la souveraineté, c'est ça le grand combat d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, depuis son accession à l'Élysée, avec son fameux discours de la Sorbonne, et puis une ambition répétée au fil d'autres discours, qu'ils aient été prononcés en France ou dans d'autres capitales européennes. Vraiment cette idée d'une Europe qui soit souveraine, qui soit émancipée de ces grandes dominations, dépendances extérieures. Évidemment, cet objectif-là, d'abord les autres Européens y ont longtemps été assez indifférents, voire pour certains réticents, mais ça s'est bien affirmé, ils en ont pris conscience. D'abord avec la guerre d'agression, la guerre de haute intensité menée en Europe même avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et puis beaucoup plus récemment par cette Amérique, l'Amérique de Trump, qui désormais se détourne ostensiblement du vieux continent en leur disant notamment, écoutez, pour votre défense, il faut que, et votre sécurité, il faut que vous-même, les pays européens, vous la preniez en charge et vous payiez pour cela. Donc, sous cette double pression de l'extérieur, des pays qui étaient jusque-là, mais vraiment rétifs à l'idée d'une émancipation vers une souveraineté européenne dans ce domaine de la défense, des pays comme le Danemark, comme les Pays-Bas, sans parler des pays scandinaves de l'Union qui eux aussi se sont convertis désormais à cette idée, d'autant plus qu'ils sont eux en première ligne par rapport à la Russie, je pense à la Finlande, je pense à la Suède. Donc cette idée, elle progresse nettement, et puis bien sûr avec aussi le jeu, et là qui est primordial dans cette idée-là, des pays qui sont vraiment sur la ligne de front, c'est-à-dire les anciens pays de l'Est, qui sont désormais dans l'Union européenne, comme la Pologne, comme les anciennes républiques soviétiques de Lituanie, Lettonie, Estonie. Bref, tout cet ensemble-là fait que cette idée d'une défense européenne, elle prend corps, elle avance, et puis ça va même très loin, parce que, y compris dans l'initiative qui était considérée comme totalement folle il y a encore quelques années, vous savez, d'un partage, ou en tout cas d'une extension, disons, de la dissuasion française à ses partenaires européens, eh bien, même là-dessus, ça avance. Il y aura, a priori, un discours important à ce sujet d'Emmanuel Macron au début de l'année 2026. Et on sait, par exemple, que la Pologne est tout à fait intéressée par cela. Et même en Allemagne, les esprits évoluent. Donc, oui, pour répondre à votre question, cette idée d'une défense européenne, d'une souveraineté des Européens en matière de sécurité, ça progresse. Et d'ailleurs, au sommet de Bruxelles, l'un des points importants a été l'établissement d'une feuille de route, une espèce de boussole européenne pour sa défense, donc aussi bien en matière d'équipement que d'industrie de défense, que de préférence européenne en matière de production. Une feuille de route est établie pour l'Europe d'ici 2030, mais avec des étapes évidemment qui sont beaucoup plus rapides et qui avancent concrètement.
Je reviens à la question qu'on se pose sur le rôle d'Emmanuel Macron dans l'Union européenne. Quel est son poids aujourd'hui alors qu'il est considérablement affaibli sur le plan intérieur?
Vous l'avez dit, il est affaibli et forcément ça se ressent ici. Et comme me l'a confié quelqu'un qui est, disons, de la grande famille Renew, vous savez, la famille politique d'Emmanuel Macron de Renaissance ici à Bruxelles, au Parlement européen, il me disait, mais évidemment que son étoile en Europe, elle a pâli, on peut même dire que des branches de cette étoile se sont cassées. Bien sûr, parce que le poids d'un leader dépend de sa capacité à entraîner chez lui sa propre classe politique, sa propre population. Néanmoins, ce qui compte en Europe, c'est la capacité à avoir des initiatives, à proposer des grands projets, à proposer des choses qui peuvent faire avancer. Et cela, il faut bien reconnaître que de ce côté-là, Emmanuel Macron, aussi, non pas discrédité, mais en tout cas affaibli qu'il soit, il garde quand même une capacité d'influence parce que, bien souvent, c'est quand même lui, avec les idées françaises, qui bouscule un petit peu les choses. On l'a vu encore tout récemment avec la reconnaissance de l'État palestinien. Il a entraîné derrière lui certains États européens. Et puis, sur l'Ukraine, avec des idées, des initiatives, comme par exemple la coalition des volontaires, c'est quelque chose qu'il a lui-même initié il y a pas plus d'un an, qui ne cesse de progresser et qui est maintenant co-dirigé avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Alors les Britanniques ne sont plus dans l'UE, mais néanmoins ils jouent un grand rôle dans la réponse à l'Ukraine. Donc cette capacité à impulser, elle demeure. Certes, le poids est affaibli parce qu'on sait qu'un pays qui reste un petit peu, presque sur certains aspects, le canard boiteux de l'Europe, par exemple, l'incapacité de la France à se réformer. On parle tout le temps chez nous de la réforme des retraites qui n'avance pas, qui ne cesse de provoquer crise politique sur crise politique. Or, il faut bien être conscient que chez tous nos partenaires, cette question-là, elle est réglée depuis longtemps et que ces pays ont fait leur réforme. Donc, de ce côté-là, il y a une certaine, à la fois, incompréhension, parfois aussi de vrais reproches vis-à-vis de cette France qui n'avance pas au diapason européen et qui finalement fait moins d'efforts de ce côté-là que les autres. Donc ça amoindrit son influence, sa parole à Emmanuel Macron. Et c'est vrai que d'autres leaders à la fois émergent, mais n'ont pas la même ambition pour l'Europe. Je pense au chancelier allemand Friedrich Merz, qui a pourtant un véritable engagement. Notamment, il est extrêmement concerné par l'Ukraine. Il agit par ce que les Européens peuvent y faire. Donc, il agit en ce sens. Je l'ai dit, il a également des évolutions tout à fait intéressantes en matière de sécurité commune prise en charge par les Européens eux-mêmes, alors que jusque-là, les Allemands étaient extrêmement atlantistes, c'est-à-dire se remettaient au parapluie américain. Mais enfin, eux, comme les autres, constatent bien que les Américains changent actuellement de vision. Il y a également l'Italienne Giorgia Meloni, qui représente une frange européenne qui est de plus en plus importante. Mais pour l'instant, personne ne prend vraiment le pas sur la scène européenne. Et donc, ça laisse quand même de la marge à Macron. Et une dernière chose sur Macron, je me souviens d'une confidence qu'il nous avait faite alors qu'il revenait de la Maison-Blanche, de sa rencontre avec Donald Trump dans le bureau ovale au début de l'année, en février 2025, et il avait confié qu'en gros, il se dépêchait d'essayer d'avoir de l'influence sur les grands événements tragiques dans le monde, donc l'Ukraine, à l'époque Gaza, on était encore très très loin de toute idée de cessez-le-feu, bref, de tous ces drames qui ravagent la planète, et il disait, moi, je sais que j'ai devant moi une fenêtre de 18 mois pour peser, il disait cela en février, parce que après, je serai ce que les Américains appellent un canard boiteux, c'est-à-dire un président dont on sait qu'il ne peut pas se représenter, donc quelque part qui est en bout de parcours, et donc il ne peut plus avoir d'influence. Donc lui-même le théorisait, et c'est vrai que quand vous êtes un leader dont on sait qu'il n'a pas beaucoup d'avenir par définition devant lui, vous avez plus de mal à marquer votre emprise.
Vous n'avez pas le sentiment tout de même que Giorgia Meloni est devenue le pilier de l'Union européenne. Elle est à la fois proche de Donald Trump et claire sur l'Ukraine. Qui aurait imaginé la place qu'elle prendrait alors qu'elle a été élue il y a 3 ans et elle vient de l'extrême droite?
Alors vous avez raison, je ne dirais pas le pilier. Disons que Giorgia Meloni, c'est l'un des piliers, c'est une femme d'influence au sein de l'Europe. D'ailleurs, elle a beaucoup l'oreille de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, notamment par ses bonnes relations avec Donald Trump. Giorgia Meloni a favorisé une rencontre entre Trump et von der Leyen, les deux ne s'appréciant pas du tout. C'est un souvenir du premier mandat de Trump, quand il est arrivé à la Maison-Blanche et que von der Leyen, Ursula von der Leyen, elle, est arrivée à la tête de la Commission, où vraiment ça se passait très mal, et on a retrouvé cette inimitié à la réélection au deuxième mandat de Trump. Donc Giorgia Meloni, là-dessus, elle joue un peu de cette influence. Vous avez raison, c'est vrai qu'elle a, pour elle en tout cas, le fait qu'elle s'est bien fondue dans les institutions européennes. Il y avait cette crainte quand elle a été élue il y a 3 ans, venant de l'extrême droite assumée à l'époque en Italie, donc très nationaliste, et bien qu'elle soit presque un obstacle pour l'Europe. Non, au contraire, elle a su en jouer, elle a su bien imprimer l'Italie dans cette démarche. Il faut dire que c'était d'autant plus crucial pour elle qu'on sortait de l'époque du Covid et que donc l'Italie était le pays européen qui bénéficiait le plus du plan de relance européen. Vous savez, ces centaines de milliards qui étaient comme ça propulsés dans les pays qui avaient été le plus dévastés par cette épidémie, et l'Italie avait profité de cette manne. Donc tout l'intérêt, et ça, Meloni a su en jouer, la présidente du Conseil, pour faire arriver des milliards d'investissements dans son pays et donc jouer le jeu des institutions. En plus, c'est vrai qu'elle sait développer son influence, elle sait aussi jouer d'une chose, c'est-à-dire que sa famille politique, qui est éclatée en 3 groupes en réalité au Parlement européen, bah, malgré tout, elle se retrouve souvent dans des propositions. Meloni compose aussi très bien avec la droite, plus modérée, mais enfin les conservateurs européens du PPE, hein, qui tient la majorité, c'est-à-dire justement le parti de l'allemand Merz, évidemment de von der Leyen, et donc c'est eux qui sont majoritaires, alors en majorité relative au Parlement européen, mais en tout cas c'est un poids politique qui est important. Meloni sait composer avec eux, bien qu'elle soit plus à droite sur l'échiquier. Donc oui, c'est vrai qu'elle a avancé ses pions, qu'elle a, disons, clairement ramené l'Italie dans le jeu européen, alors ce que son prédécesseur, hein, Mario Draghi, avait déjà commencé à faire, parce que Mario Draghi, qui était le Premier ministre avant elle à Rome, c'était un enfant de l'Europe. Mais il y a cette idée-là. Alors vous dites qu'elle est claire sur l'Ukraine, oui et non, elle est moins allante, notamment qu'un Macron ou que d'autres, parce que Giorgia Meloni, elle n'a pas envie, par exemple, que des troupes italiennes se joignent à une force de déploiement qui serait stationnée en Ukraine, même une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Disons qu'elle évolue, elle a tendance plutôt à se ranger dans ces questions-là derrière l'OTAN, mais enfin, en tout cas, elle finit quand même toujours par jouer le jeu avec sa petite musique à elle.
Henri Vernet, 30 ans après le processus de Barcelone, l'Union européenne lance une initiative pour réactualiser sa relation avec les pays du pourtour méditerranéen. Un projet de pacte pour la Méditerranée a été présenté par la Commission. Selon le site Politico, l'UE envisage même d'intégrer des pays du Maghreb et du Proche-Orient au programme Erasmus, qui est très populaire chez les étudiants européens. L'Union européenne est-elle en train d'opérer un virage historique en se rapprochant ainsi de ces pays?
Oui, vous avez raison, c'est aussi un virage réaliste parce que ce sont des pays qui sont quand même nos voisins directs. Il faut d'ailleurs se rappeler que la France, il y a des années, c'était du temps de la présidence Sarkozy en 2007, avait lancé une initiative de ce genre, c'était l'Union pour la Méditerranée. Il s'agissait vraiment de rapprocher les deux rives, de lancer des partenariats dans le domaine culturel, mais surtout industriel, économique, universitaire. Et puis cette grande initiative, elle a beaucoup fait flop. Il faut dire aussi que ce soit pour la France ou pour l'Union européenne au sens plus large, bah souvent cette union se heurte justement de l'autre côté de la Méditerranée, du côté sud et du côté est, à des pays qui, eux, en revanche, sont souvent désunis, il faut bien le dire. Et donc, mener des politiques globales n'est pas facile. Là, il y a donc cette initiative Erasmus, qui est l'un des multiples projets qui figureraient dans ce pacte. Alors attention, pour l'instant, il s'agit de le lancer, ce pacte. La concrétisation viendra peu à peu. Mais l'intérêt, c'est quoi ? C'est d'avoir des coopérations universitaires. Très concrètement, il s'agirait pour les différents pays européens et donc pour l'Europe dans son ensemble de faciliter l'obtention de visas pour des étudiants, vraiment de développer quelque chose qui a fait ses preuves en Europe. Le Erasmus, on le dit toujours, c'est vraiment l'une des grandes réussites de la politique communautaire. 16 millions d'étudiants européens ont bénéficié de cet Erasmus européen et on a toujours constaté que ça, c'est quelque chose qui marque les esprits, c'est-à-dire qu'un jeune qui est passé par Erasmus, eh bien, il aura toujours, j'allais dire, l'esprit plus ouvert, plus curieux des autres, beaucoup plus avec un appétit d'aller d'un pays à l'autre, d'avoir des connaissances, des cultures partagées, de s'intéresser aux autres, qui vous marque presque à vie. Et donc, vraiment, développer ça, ce serait extrêmement, extrêmement intéressant, ce serait profitable des deux côtés. Ce serait aussi, il ne faut pas se le cacher, pour les pays européens, dont l'une l'une des grandes préoccupations aujourd'hui, ce sont justement les grandes migrations et évidemment les migrations illégales, irrégulières, avec les drames que cela provoque en Méditerranée, eh bien là, ce serait justement un moyen d'ouvrir des filières légales, de permettre à des gens finalement de devenir des travailleurs de l'un et de l'autre côté. Et donc, il y a aussi cet intérêt purement objectif. Vous citiez l'exemple de Madame Meloni tout à l'heure, mais un des points sur lesquels Giorgia Meloni a voulu se distinguer de ses pairs européens, c'était justement par une politique migratoire très très dure. Hein. Elle avait proposé par exemple d'installer en Albanie des centres de tri, hein, pourrait-on dire de manière très péjorative, mais justement pour diminuer l'afflux sur les côtes italiennes, et cela a été balayé par sa propre juridiction interne. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment passer à une approche beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus constructive, beaucoup plus positif finalement dans ce domaine-là, et c'est vrai qu'un tel programme Erasmus en serait une illustration. C'est aussi une façon pour l'Europe de reprendre pied dans une région où elle est un peu battue en brèche, même souvent très battue en brèche, par des influences extérieures telles que la Chine, hein, qui est extrêmement active, ou la Russie, parce que de quel pays est-ce qu'on parlerait? On parlerait évidemment des pays du Maghreb, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, ceux qui seraient concernés par ce plan, par un tel programme, mais ce serait également l'Égypte, le Liban, les territoires palestiniens, Israël, la Syrie. Donc vous voyez, c'est quand même une ambition qui est large, hein, pour ce pacte qui est envisagé par les Européens. Maintenant, on reste en effet à le remplir d'initiatives très concrètes.
Henri Vernet, on vient de parler du grand succès d'Erasmus, et il y a quelques jours, on a appris la mort de Sofia Corradi à l'âge de 91 ans. Elle était surnommée Mama Erasmus. C'est à elle qu'on doit le célèbre programme européen d'échange d'étudiants. On critique beaucoup l'Union européenne accusée de ne pas assez répondre aux besoins concrets de ses habitants. Mais vous l'avez dit, ce programme Erasmus, c'est la plus grande réussite de l'Europe, puisque tout le monde le voit, tout le monde connaît un étudiant qui a bénéficié de ce programme.
Oui, je le disais, ce sont 16 millions d'étudiants européens, dont 2 millions de Français qui sont passés par ce programme. Donc c'est vrai qu'il est extrêmement populaire, surtout tous ceux qui l'ont accompli en ont gardé un souvenir vraiment marquant. Parfois, ça a imprimé leur vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, L'Auberge espagnole, hein, de Cédric Clapiche, qui filmait, qui racontait justement l'histoire d'étudiants qui se trouvaient à Barcelone, là, tous ensemble, qui venaient des différents pays de l'Union et qui vivaient entre études, bien sûr, mais également les fêtes, la vie festive qu'on peut avoir, la vie d'un jeune étudiant à l'étranger, à quel point tout cela était marquant. Et Cédric Clapiche, qui était interviewé dans Le Parisien au moment justement de la mort de Sofia Corradi, il rappelait qu'un jour il avait été interpellé comme ça dans les rues de Paris par un couple, un Suédois, une Italienne. Ils avaient un berceau et ils lui montrent leur berceau en disant « ben voilà, c'est un bébé Erasmus, c'est grâce à vous ». Parce que justement, ces deux jeunes gens s'étaient rencontrés quelques années auparavant dans le cadre de ce programme. Et comme beaucoup, eh ben ça les a marqués. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est une expression qu'on connaît aussi, hein, les bébés Erasmus, c'est-à-dire des enfants qui sont nés d'union formée à ce moment-là. Donc oui, voilà une réussite concrète qui est importante parce que pour beaucoup de jeunes, c'était vraiment l'occasion de découvrir un pays à la fois étranger et pas étranger parce qu'on est dans la même union, mais quand même. Et donc c'est vraiment une marque positive d'une Europe qui, quand elle le veut, peut être autre chose qu'un grand machin technocratique, bureaucratique, donc on comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc oui, c'est vraiment un programme qui a marqué et qui doit se poursuivre. D'ailleurs, l'une des grandes déceptions quand la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, l'une des grandes déceptions, c'était celle-là, quoi. C'est que ce programme-là, forcément, allait totalement s'affaiblir, voire disparaître avec l'Angleterre.
Henri Vernet, est-ce que l'Union européenne doit investir davantage la question sociale? Parmi les reproches qui sont faits aux 27, c'est leur tendance à se préoccuper d'économie en oubliant la question sociale, et cela peut expliquer en partie la montée des populismes en Europe.
Alors, c'est vrai qu'elle néglige un peu cela, mais attention, d'abord pour des raisons purement, j'allais dire, statutaires ou institutionnelles, c'est-à-dire que ces questions-là, la plupart du temps, elles relèvent de la souveraineté même des États. Et vous savez, les gouvernements, les dirigeants, ils sont très jaloux de ces prérogatives. Donc, donner un peu de poids sur des questions qui relèvent de votre vie, j'allais dire votre vie intime nationale, à un organisme supranational, comme diraient justement les populistes, c'est pas évident. On l'a bien vu, rappelez-vous, au moment de l'épidémie de Covid, il a fallu batailler pour que l'Europe puisse avoir mené la lutte contre cette épidémie, que ce soit à travers les mesures sanitaires comme les masques, les passes, et puis surtout évidemment le vaccin. Et finalement, ça a été plutôt un succès. Donc là, sur ce plan-là, l'Europe a franchi un pas important dans une crise majeure, comme c'est souvent le cas avec l'Europe, qui était donc la pandémie de Covid. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Là, on voit par exemple, l'Europe commence à s'intéresser au logement. Et on sait que le logement, et notamment d'ailleurs le logement pour les jeunes, c'est une véritable difficulté. C'est un problème énorme dans beaucoup de pays de l'Union européenne, à commencer par la France, bien sûr. Donc, c'est intéressant de voir l'Europe se pencher, en effet, prendre en charge, prendre en main, en tout cas, de telles questions. C'est vrai qu'elle ne doit pas rester trop abstraite, mais enfin, là, je viens de montrer avec l'exemple du Covid. Non, elle fait aussi du concret. Simplement, on a parfois du mal à le voir. C'est vrai aussi, vous disiez, social, mais attention, il y a aussi le fait que quand elle s'occupe trop de social, eh ben, on le lui reproche. Là, je vais remonter encore plus loin dans nos souvenirs. Mais rappelez-vous le référendum sur une espèce de constitution européenne, ce référendum de 2005. Et en France, il a été mais largement rejeté, c'était très sec, notamment parce que les opposants, dont d'ailleurs le PS à l'époque, c'était notamment Laurent Fabius, qui avait mené une campagne contre ce qu'on appelait la liberté de Bolkestein, c'est-à-dire en gros en accusant l'Europe de prôner un tout libéralisme sur le plan social, qui allait vraiment broyer les travailleurs de chaque nation, de chaque pays. Donc, c'est délicat pour l'Europe de s'aventurer sur des terrains qui ne sont pas, comme vous disiez, économiques, enfin macroéconomiques plus exactement, qui ne soient pas institutionnels. Mais en réalité, tout l'enjeu pour l'Europe, c'est de se montrer protectrice, c'est de montrer qu'elle protège les citoyens. Et de ce côté-là, donc il y a l'exemple de la pandémie, mais il y a évidemment l'exemple dont on parlait en début d'entretien, c'est-à-dire tout ce qui est défense et sécurité. Et ça, l'Europe, son enjeu, c'est vraiment de montrer qu'elle œuvre pour les 450 millions de citoyens de nos 27 pays.
Dernière question, Henri Vernet. Comment la Commission européenne entend-elle répondre à la montée des mouvements nationalistes dans les démocraties européennes? Des mouvements qui sont parfois proches de la Russie et de Vladimir Poutine, des partis politiques qui sont précisément anti-européens.
Oui, vous avez raison de souligner cette proximité. D'ailleurs, on les voit à l'œuvre. Alors, une des premières actions concrètes et qui est menée au niveau communautaire, mais évidemment également par chacun des pays concernés, c'est de lutter contre ces tentatives d'immixtion, d'influence, de manipulation. Manipulation des urnes, parfois, manipulation des esprits. Et donc, là-dessus, il y a vraiment des efforts communs pour dénoncer toutes les fake news, toutes les manœuvres qui sont menées depuis des espèces de fermes à trolls, littéralement, qui sont en Russie, et à la fois en Russie et dans les différents satellites, les proxys, comme on dit, de Moscou. Donc ça, c'est une réalité. On l'a encore vu récemment avec toutes les tentatives de déstabilisation en France, avec, vous savez, les opérations sur les têtes de cochon devant des mosquées, les tags antisémites, tout ça a été mené par des équipes proches affiliées au Kremlin, de près ou de loin. Donc il y a vraiment ça, il y a cet aspect très concret. Mais après, c'est évidemment la bataille des idées qu'il faut gagner. Et là, il faut convaincre. Il y a une tentation autoritaire qui existe dans nos pays, et notamment en France. On voyait encore l'autre jour, il y avait un sondage fait par l'Ipsos pour une enquête fracture de France que fait régulièrement notre fracture française, que fait régulièrement notre confrère Le Monde, et on voit que la tentation de régime autoritaire, donc qui se substituerait, qui remplacerait nos systèmes parlementaires démocratiques habituels, et cette tentation, elle existe, elle est assez forte, et notamment chez les plus jeunes, les moins de 35 ans, j'étais vraiment frappé de voir que 45% d'entre eux étaient plutôt favorables à un système autoritaire. Donc ça, on voit bien jouer l'influence russe, une espèce de modèle Poutine. Il faut toujours garder en tête une chose importante, c'est que l'objectif mais même pas caché, l'objectif affiché, très clair, de Moscou, de Poutine, mais c'est de fracasser, c'est de casser l'Union européenne, justement parce que c'est une union et qu'il n'apprécie pas ça. C'est évidemment aussi l'ambition, alors là, pour le coup, plutôt plus ou moins caché, mais d'un Xi Jinping en Chine, voire des Américains qui aiment bien une Europe un peu divisée. Quand vous demandez mais comment l'Europe peut faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire, mais tout simplement, c'est à elle, mais également à chacun des pays concernés, de se montrer plus efficace, de convaincre davantage ses citoyens que c'est plutôt par des solutions démocratiques, par des solutions politiques, par des solutions, on pourrait dire un peu modérées, mais concrètes, qu'on peut progresser. Mais c'est vrai qu'il y a toute une vague populiste, mais d'ailleurs, bien des populistes sont déjà aux commandes en Europe. Vous citiez Giorgia Meloni, même si en réalité dans son action depuis 3 ans, on voit bien qu'elle est tout à fait pragmatique, mais enfin, elle est quand même arrivée sur un air de dégagisme quand elle a été élue. Évidemment, il y a des populistes comme le Premier ministre hongrois, ça fait longtemps qu'il est là, Viktor Orban, il y en a beaucoup. Il faut dire aussi que de toute façon, l'époque est aux populistes. Qu'est-ce que Trump, si ce n'est pas Donald Trump, si ce n'est pas un populiste? Donc, la seule manière, c'est de montrer que la démocratie, elle aussi, elle peut être tout à fait efficace, elle peut répondre aux besoins des gens. Mais enfin, cette démonstration, elle n'est pas toujours évidente à faire.
Merci Henri Vernet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. C'est la fin de cet épisode de Coulisses politiques. Retrouvez-nous sur Spotify, RadioOrient.com et nos réseaux sociaux. Merci.
Coulisses politiques avec Henri Vernet.